Alors, on va entendre l'intervention de Jocelyn Maclure. Jocelyn Maclure, qui est professeur de philosophie morale et politique à l'Université Laval. Alors, il faut rappeler d'emblée, puisque c'est un colloque aussi de la commémoration des 10 ans du CREUM, que c'est un de nos glorieux postdoctorants du CREUM. A marqué son passage dans cette institution. Son travail porte principalement sur les conditions de l'égale citoyenneté dans le contexte des sociétés multiculturelles. Il s'intéresse en particulier à l'inclusion des religions dans l'espace public et aux théories de la reconnaissance. Et c'est à ce titre qu'il est intervenu et a participé comme expert auditionné dans la commission Bouchard-Taylor. Et dans le prolongement du rapport de la commission Bouchard-Taylor, il a publié notamment en 2010 un ouvrage sur la laïcité et la liberté de conscience, coécrit avec Charles Taylor. Tu as 12-15 minutes.
Parfait. Merci beaucoup Marc-Antoine, merci aux autres organisateurs de cette invitation. Ça me fait vraiment un grand plaisir d'être là. Je suis personnellement redevable au CREUM de multiples façons, comme Marc-Antoine l'a rappelé. Donc j'étais un des premiers postdocs à l'automne 2003. Le CREUM m'a accueilli donc avec beaucoup de générosité à ce moment-là. Puis j'ai aussi, alors que j'étais papa pour la première fois, passé ma première année sabbatique ici, donc dans un milieu. J'ai encore été frappé par la qualité des échanges, mais aussi leur extrême convivialité. Donc j'en garde de très bons souvenirs. Puis plus fondamentalement, je pense que le CREUM est un lieu d'animation et de recherche en éthique absolument indispensable. C'est un lieu indispensable parce qu'on peut y réfléchir, on peut réfléchir aux questions éthiques à tous les niveaux de généralité. Puis c'est aussi une interface, encore là, assez unique donc entre la recherche universitaire et la sphère publique. Puis au moment où le Québec et les autres sociétés comparables donc sont traversés par des questionnements éthiques à la fois très délicats, très complexes, c'est une évidence même que les universités doivent investir dans ce genre de lieu. Et je sais que c'est malheureusement pas une évidence qui est toujours reconnue. Je sais que c'est le cas pour le CREUM, mais c'est le cas aussi, Patrick Turmel pourra en témoigner, de notre Institut d'éthique appliquée à l'Université Laval, qui a un mandat un peu différent mais complémentaire à celui du CREUM. Ce que je veux faire, c'est de réfléchir un peu à l'état de la philosophie politique aujourd'hui et pour les prochaines années. Donc dans un premier temps, puis reprendre le questionnement dont on a parlé hier et sur lequel un peu Daniel Weinstock nous a laissé donc dans sa conférence initiale, c'est-à-dire sur cette exigence de neutralité que l'on devrait peut-être donc respecter en tant que philosophe, éthicien, lorsqu'on intervient dans les débats publics. Donc je vais faire ça. Puis à la fin, en conclusion, je vais faire un commentaire donc sur la présentation et le texte de M. Renaud, donc le texte public dans les ateliers de l'éthique. Je veux commencer par exprimer un certain optimisme par rapport donc à l'avenir de la philosophie politique, de la recherche en philosophie politique. Cet optimisme est peut-être une condition nécessaire à mon équilibre psychologique, une condition une stratégie d'adaptation nécessaire, mais ceci étant, j'ai quand même déjà été moins optimiste par rapport donc à l'avenir de la philosophie politique. La raison principale était que le phénomène dont Daniel a parlé hier, donc de surspécialisation, de sursophistication des travaux en philosophie politique, m'inquiétait un peu. L'étourdissante prolifération donc des travaux sur toute une série de sujets et d'auteurs, comme Daniel l'a écrit, je pense, dans le texte d'introduction. Donc, il nous dit que même pour un expert donc dans un domaine donné, multiculturalisme, laïcité, tout ça, c'est difficile de suivre les travaux qui sont publiés juste dans ce champ très précis. Donc, j'insiste pas trop là-dessus. On en a parlé hier. Mais bon, la conséquence de ça étant que on a droit à toute une floraison de travaux très raffinés, très sophistiqués, mais qui peuvent donc être assez loin quand même des préoccupations pratiques, politiques, donc des sociétés contemporaines. Puis c'est le... c'est aussi l'impression souvent que j'avais avec cette tendance donc qui est la nôtre hein, d'utiliser de façon à mon avis parfois excessive et un peu exaspérante des expériences de pensée hein, des expériences de pensée très élaborées ou des cas de figure, des exemples souvent un peu invraisemblables qui servent de contre-argument à des théories mais qui ont aussi l'effet d'accroître encore plus l'impression de distance entre la philosophie politique universitaire et les problèmes éthico-politiques réel. Je suis pas contre les expériences de pensée, je veux dire, la position originelle ou la violoniste ou Jim et les Indiens, tout ça, ce sont des chefs-d'œuvre d'imagination philosophique dont je voudrais pas qu'on se passe, mais je pense plus être capable d'entendre parler des problèmes du trolley puis d'autres expériences de pensée qui sont pas toujours très heureuses. Pour quelqu'un comme moi qui cherche souvent donc à justifier, à expliquer les fondements éthiques des accommodements raisonnables, souvent dans des séminaires de philosophie, donc on passe presque la totalité de la discussion à discuter d'exemples parfaitement farfelus, invraisemblables, des cas comme ce. Donc une fois à l'Université de Victoria, on a passé une heure à parler du morning worshipper, donc celui qui sacralise, qui voit un culte à sa routine du matin, donc à prendre le café en lisant le journal, puis qui, ce faisant, voudrait que son directeur de département lui l'accommode, puis lui dise, ben non, toi, tu n'enseigneras pas le matin parce que tu vois. Donc, qu'est-ce que vous faites, M. McClure, avec ce type d'exemple? Donc, parfois, on peut s'éloigner des préoccupations qui sont pressantes, qui sont déjà assez riches et complexes, puis on n'a pas besoin donc de se réfugier dans ces contre-exemples très un peu montirés par les cheveux.
Mais que penses-tu du voile d'ignorance comme expérience de pensée?
Ben, comme je disais tout à l'heure, pour la position originelle, pour moi, bon, si je le dis souvent à mes étudiants, c'est pas là que Rawls tire les justifications les plus fortes pour cette théorie de la justice, mais c'est en même temps une expérience qui nous enseigne des choses, on peut tirer certaines leçons, donc je voudrais pas m'en passer de ça. Donc il y en a des meilleurs que d'autres, mais c'est l'idée que c'est là la méthode principale ou première pour justifier nos théories, c'est ça qui me dérange davantage. Donc, c'est ce qui parfois donc me faisait un peu donc douter de la pertinence de notre travail, mais cette tendance-là a été très largement contrebalancée par une tendance donc qui va dans un mouvement complètement inverse, puis qui rapproche la philosophie politique des urgences sociales, puis qui démontre toujours sa pertinence. C'est ce que certains ont appelé donc le tournant pratique de la philosophie politique et de l'éthique, ou le tournant vers la théorie non idéale. Monsieur Renaud parle de philosophie politique appliquée. Donc, je pense que ce mouvement-là contrebalance très, très largement pour cette tendance parfois un peu excessive d'aller vers des exemples fictifs. Me semble-t-il que les philosophes donc, ont accepté de se retrousser les manches, puis de penser donc, aux conditions de la justice dans des conditions qui sont non idéales, puis de prendre à bras le corps donc, des problèmes pratiques qui mettent à mal la coopération sociale dans les sociétés démocratiques contemporaines. Puis donc ça, c'est une tendance qui me réconcilie donc avec la philosophie politique. C'est pas non plus quelque chose qui est étranger à la philosophie politique. Hein, depuis sa naissance, au fond, les philosophes politiques ont très souvent trouvé dans les problèmes pratiques, surtout dans les désaccords qui minaient la coopération sociale, l'impulsion pour la formalisation puis la théorisation. Hein, c'était vrai chez Platon, c'est vrai chez Hobbes et Locke, c'était vrai d'une certaine façon chez Rawls aussi. Puis, il me semble-t-il qu'on revient à cette idée-là que, bon, c'est dans ces désaccords réels qu'on trouve l'impulsion pour le travail philosophique. Donc ça, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'à mon avis, en tout cas, on a de bonnes raisons d'être optimistes quant à l'avenir de la philosophie politique. Mais une fois qu'on a accepté donc de relever le défi de la théorie non idéale puis de l'éthique pratique, c'est vrai que la question que Daniel posait hier, donc celui des conditions d'une intervention publique éclairée, au fond, se pose avec beaucoup d'acuité. Donc, une fois qu'on devient un expert des questions liées à la place de religion dans l'espace public ou du suicide assisté, tout ça, mais c'est normal qu'on intervienne dans les débats de société et qu'on soit sollicité à le faire. Daniel donc nous a demandé de réfléchir à notre statut puis à notre rôle lorsqu'on faisait une telle chose, lorsqu'on intervient auprès des médias et des groupes, des organisations, et ainsi de suite. Puis lui-même, Daniel, a longtemps affirmé que l'on devait, lorsqu'on faisait ça, autant que possible, en tout cas, rester au-dessus de la mêlée, puis donc chercher à atteindre une certaine neutralité. Donc, le but de nos interventions serait d'abord et avant tout de clarifier les tensions éthiques qui sont à l'œuvre dans les sociétés, puis de clarifier aussi les différentes implications des façons disponibles de résoudre ces problèmes. Puis le reste, au fond, appartiendrait aux citoyens, donc qui pourraient se taire de leur propre tête, puis aux législateurs. Hein. C'est la position qu'il défend explicitement dans sa très chouette petite plaquette « Profession éthicien ». Daniel nous dit hier qu'il est plus certain qu'il avait raison à ce moment-là, que ce soit la bonne position adoptée, mais il demeure un peu indécis. Donc, malheureusement, il n'est pas là, mais on en a déjà parlé ensemble. Je pense qu'il a raison de douter de cette position-là. Je crois que cette exigence de neutralité n'est ni nécessaire ni souhaitable. Bon, c'est une évidence, je la prendrai à personne. Dans la philosophie politique, du moins dans la tradition anglo-américaine, est une branche de l'éthique normative. Bon, c'est vrai que son rôle implique une bonne dose d'analyse conceptuelle, mais sa finalité première demeure quand même l'élaboration de théories normatives ou au moins d'arguments normatifs, de justification pour les normes et les institutions public. Hein, c'est dans son ADN. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est la seule discipline universitaire qui se donne explicitement cette mission, donc de penser de façon normative, puis qui dispose aussi des ressources épistémiques pour le faire. Je pense entre autres à la riche réflexion depuis au moins Hume et Kant sur le rapport entre les faits et les normes, ou entre les jugements descriptifs et les jugements normatifs. Puis pour avoir côtoyé des collègues de tous les départements des sciences humaines et sociales, ce rapport entre les faits et les normes est probablement une des questions fondamentales qui leur pose le plus de problèmes. Hein. Alors que, bon, je veux dire, en philosophie politique anglo-américaine, depuis des décennies, donc on développe des approches, des ressources qui sont faillibles, mais qui nous permettent quand même d'avancer dans cette direction-là. Puis, ce faisant, donc, on dispose de tout un répertoire de positions et d'arguments qui nous permettent d'aborder les questions d'éthique pratique. Puis, me semble-t-il que notre débat public a un besoin urgent d'avoir accès à ces positions et ces argumentaires. Le but, puis ça, il faut le préciser, parce que c'est souvent ça la crainte qu'on a, le but est évidemment pas d'usurper le processus démocratique. Le philosophe n'est pas dans la position du législateur. Le but est simplement de nourrir la réflexion des concitoyens, des élus, des décideurs, des médias, et ainsi de suite, en défendant sur la place publique des arguments pour et contre les différentes options politiques possibles. Donc, me semble-t-il qu'on n'a pas besoin de s'imposer une espèce de neutralité qui serait un peu factice de toute façon lorsqu'on intervient dans la place publique. Je comprends parfaitement la volonté de Daniel ou le conseil de Daniel selon lequel il faut éviter le plus possible les affres de la partisanerie étroite. Ça, il a bien raison de nous avertir contre ça. Mais je pense que les meilleurs remèdes contre ça, c'est de faire preuve de la plus grande rigueur intellectuelle possible et aussi de faire preuve de, ce dont on a discuté hier, cette ouverture épistémique, cette possibilité d'être convaincu par la force du meilleur argument et ainsi de suite. Donc, c'est plus par ça que par une fausse neutralité qu'on peut se prémunir des dangers de la partisanerie étroite. Puis d'ailleurs, lorsqu'on voit les choses de cette façon-là, ça va être mon dernier point sur cette question-là, une fois qu'on renonce à cette fausse neutralité, mais ça nous permet aussi de sortir d'une espèce de dissonance cognitive, en vertu de laquelle, d'un côté, donc, on prétend que le rôle de l'éthicien est celui du grand clarificateur au-dessus de la mêlée, hein, c'est ce qu'on prétend explicitement. Alors que de l'autre côté, dans notre pratique d'intervention dans les débats publics, on défend évidemment différentes positions pour et contre les différentes options possibles. Puis, que l'on discute de politique linguistique ou de justice fiscale ou des politiques de santé publique, ainsi de suite, lorsque les philosophes interviennent, c'est très souvent donc pour défendre certaines positions. Puis, même si c'est imbriqué aussi, évidemment, une analyse conceptuelle, ainsi de suite, puis aussi loin que je peux aller dans ma mémoire, lorsque Daniel intervient dans la place publique, c'est très souvent pour défendre des positions, puis pour en critiquer d'autres, puis il n'y a absolument aucun mal à ça, me semble-t-il. Donc, Daniel est un peu lui-même, me semble-t-il, en contradiction performative entre le discours sur le rôle de l'éthicien et sa pratique en tant qu'éthicien dans notre sphère publique. Donc, un dernier mot maintenant sur la présentation stimulante d'Alain Renaud. J'ai particulièrement aimé le regard rétrospectif sur les dernières décennies qui était très éclairant. Donc, comme Marc-Antoine l'a mentionné, donc ayant œuvré pour la commission Bouchard-Taylor, puis ayant consacré le meilleur de mes énergies depuis donc à penser les défis des sociétés sécularisées ou post-séculières dans les termes de Habermas, je partage l'avis de M. Renaud voulant que la diversité religieuse puis le retour du religieux dans l'espace public vont tenir la philosophie politique occupée pour les prochaines années. Ça me semble clair. C'est le cas dans tous les régimes démocratiques de l'Inde au Canada, en passant par les pays européens. Ces travaux-là m'ont donné la chance de rencontrer des collègues de plusieurs pays, et puis peu importe le modèle la forme de relation entre le pouvoir politique et la religion, qu'on soit au Royaume-Uni avec une église officielle, qu'on soit ou au Danemark, qu'on soit en Italie, en Espagne, ainsi de suite, où il y a des formes de reconnaissance donc différenciées des différentes religions, ou dans des régimes dans lesquels la laïcité est un principe constitutionnel. Toutes ces sociétés donc sont déroutées présentement dans leur tentative de gérer la nouvelle diversité morale et politique et religieuse, pardon. Donc c'est clair que ça va demeurer un des défis importants de la philosophie politique. Là où ma perspective est peut-être un peu différente de celle de M. Renaud, c'est à l'égard de l'idée qu'il faille c'est ce que je comprends, qu'il faille probablement d'abord et avant tout aborder ou appréhender le retour du religieux sous le mode d'une menace, au fond, pour les fondements des démocraties libérales et pour l'héritage des Lumières. Puis aussi de faire preuve de scepticisme par rapport à l'ouverture manifestée par Habermas et d'une autre façon par Rawls dans certains de ses derniers textes, et évidemment aussi par Taylor. Je pense... pour ma part, qu'il est impératif de distinguer deux types d'enjeux liés donc à ce retour du religieux. Le premier type d'enjeu donc a trait à la lutte et philosophique et politique qui accourt présentement sur le sens et les implications des grands concepts, normes, institutions qui ont été élaborés pour pacifier l'Europe du 17e siècle. Donc, sur le sens des implications de la tolérance, de la liberté de conscience et de religion, de la séparation entre le pouvoir politique et les religions ou de la laïcité. Donc, il y a une lutte présentement, tant au niveau philosophique que politique, sur le sens de ces grands concepts et pratiques. Donc, ça, c'est une série d'enjeux, et l'autre enjeu étant celui donc de la thématisation philosophique de la violence et de l'extrémisme, des conflits qui sont des conflits violents qui sont motivés en partie du moins par la religion que l'on retrouve aussi aujourd'hui. Il me semble qu'il est important de mieux distinguer ces deux types d'enjeux. Pour certains, j'en suis, une théorie adéquate de la justice sociale nous mène aujourd'hui vers une certaine forme de laïcité, une forme que certains appellent ouverte, que Charles Taylor et moi avons appelé libéral et pluraliste de la laïcité, que ça nous mène à une conception de l'égalité puis de la liberté de conscience qui ménage une place aux accommodements qui visent à corriger certaines formes de discrimination ou à permettre aux agents donc de respecter leurs convictions de conscience dans les limites évidemment du respect des droits d'autrui. Donc il y a toute une réflexion qui prétend que ça fait partie des exigences même de la justice sociale de faire une place raisonnable ou acceptable aux religieux dans la sphère publique et dans les institutions publiques. Donc à partir de cette perspective, les revendications raisonnables de reconnaissance et d'accommodement de la diversité religieuse sont vues comme un approfondissement de la justice libérale plutôt qu'une remise en question radicale. Donc, de ce point de vue-là, le retour du religieux, puis la faillite de la thèse classique de la sécularisation, donc qui établissait donc une corrélation forte entre la modernisation puis le déclin du religieux, donc la faillite de cette thèse-là n'a pas nécessairement pour effet de menacer l'héritage des Lumières. De l'autre côté, donc je ne nie pas que l'on doit aussi penser à la violence et au mal en philosophie politique. Là-dessus, M. Renaud a raison. Il faut déterminer comment réagir par rapport aux mouvements radicaux qui s'agitent dans les sociétés démocratiques, puis à la possibilité de conflits transnationaux. C'est un thème qui concerne autant les théories de la justice domestique que les théories de la justice globale. Pour l'instant, je ne sais pas si on soit autorisé à traiter donc les formes de violence, disons, religieuses, religieuses ou inspirées en partie de certaines interprétations religieuses? Est-ce que l'on doit les traiter différemment des autres formes de violence? Pour l'instant, je n'ai pas de raison de le croire, mais mon idée, ma tête n'est pas faite là-dessus. Puis c'est peut-être aussi un thème sur lequel Riwa pourra revenir tout à l'heure. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci. 10 minutes ou